Le journal Claire Checaglini. Bonjour Claire.
Bonjour.
À la une ce matin, la dernière soirée au restaurant hier soir dans les 38 nouveaux départements concernés par le couvre-feu.
Cette France qui veut oublier le temps d'un iné. Et dans ce journal, cette France de la pauvreté, le Premier ministre annoncera aujourd'hui de nouvelles mesures pour lutter contre ce fléau. Aux États-Unis, plus de 52 millions d'Américains ont déjà voté pour désigner leur prochain président. C'est l'équivalent de 40% des participants au scrutin d'il y a 4 ans. Rugby, retour au terrain pour les hommes du 15 de France. Premier match des tricolores depuis 7 mois et demi. Ils affronteront les redoutables Gallois ce soir au Stade de France. Et puis à suivre dans l'esprit sport avec Laetitia Bernard, le destin d'une footballeuse brésilienne sourde.
L'invité à partir de 8h20, ce sera Emmanuelle Wargon, la ministre déléguée au logement. Question ce matin avec elle sur l'hébergement d'urgence en cette période de crise et à l'approche de l'hiver.
France Inter.
298 morts du Covid enregistrés hier, plus de 42 000 nouveaux cas comptabilisés et une ambiance qui rimait encore avec insouciance dans certains départements pourtant concernés par le couvre-feu.
Et oui, il s'agit des 38 nouveaux départements. Il était interdit de sortir de chez soi à compter de minuit la nuit dernière. Couvre-feu appliqué dès ce soir et pour 6 semaines à 21h, ce sera le cas en Haute-Vienne. Alors pour profiter une dernière fois des restaurants, les habitants de Limoges étaient notamment nombreux à avoir choisi hier de dîner dehors. Le reportage de Jérôme Osterman.
Des salles pleines, des assiettes qui défilent et des clients qui rigolent. Dans le centre de Limoges, les quelques gouttes de pluie n'ont pas découragé celles et ceux qui voulaient en profiter, comme Thierry et Corinne, venus spécialement de Charente pour passer cette dernière soirée dehors avant de longues semaines.
On s'est décidé hier soir à 18h, après les annonces de notre Premier ministre.
Et des chèques mille merci, parce que je travaille dans un hôpital, donc c'était valable jusqu'au 31 décembre, et donc on en a profité avant qu'il y ait un reconfinement possible.
Même état d'esprit pour Emmanuelle, même si elle a un peu de mal avec ses restrictions.
Ça met un peu mal à l'aise de se dire qu'on ne va plus pouvoir trop le faire pendant un petit moment, jusqu'à quand on ne sait pas trop. Du coup, on profite. Donc on a pris une bouteille entière de vin.
Pour Romain, qui a également partagé une table avec des amis hier soir, ce couvre-feu est malheureusement indispensable.
C'est quand même mieux que le confinement.
Un Limougeot philosophe par rapport à ce couvre-feu, et il n'était pas le seul hier soir, loin de là. Patrice aussi, par exemple, l'accepte, un brin fataliste.
On subit les événements. Maintenant, on va se comporter en bon citoyen. Il faut que chacun fasse des efforts dans l'intérêt général pour qu'on se sorte tous de cette épidémie qui a des conséquences terribles pour tout le monde.
Mais en attendant du mieux, il est désormais interdit, sauf dérogation, de sortir après 21h à Limoges et dans toute la Haute-Vienne.
Des nouvelles restrictions qui s'inscrivent bien sûr dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Ce matin et pour la 5e fois en 7 mois, les députés devront voter sur sa prorogation. Le texte sera examiné dès 9h. Il prévoit que ce régime d'exception reste en vigueur jusque début avril. Son passage par l'Assemblée nationale ne devrait pas poser problème au gouvernement vu la majorité à LREM. Reste l'examen par le Sénat les 28 et 29 octobre et l'opposition a d'ores et déjà prévenu qu'elle ne donnera pas de blanc-seing à l'exécutif. Le gouvernement, qui sera représenté par plusieurs de ses membres aujourd'hui au centre Emmaüs d'Épinay, sur Orge, dans l'Essonne, le Premier ministre va présenter le second volet du plan de lutte contre la pauvreté. Les détails de ce qui devrait être annoncé avec Benjamin Boucherie.
Pour réduire la pauvreté, le gouvernement mise tout sur l'emploi. Un travail, c'est la meilleure façon, selon lui, de ne pas s'enfoncer dans la précarité. Le Premier ministre s'apprête donc à annoncer la création de 200 000 places supplémentaires dans les centres d'insertion par l'activité économique, des structures destinées à des personnes qui n'ont pas travaillé depuis plusieurs années. Autre mesure envisagée, le renforcement de la prime à l'embauche, 4 000 euros pour les patrons qui recrutent un jeune de moins de 25 ans. Le gouvernement choisit donc de renforcer des dispositifs déjà existant, une approche critiquée par les associations. Pour la Fondation Abbé Pierre, par exemple, il n'est pas logique de dire « c'est en trouvant un emploi qu'on évite la précarité, car à cause de la crise sanitaire, il n'y en a pas d'emploi ». Ces associations plaident donc plutôt pour une hausse du RSA, mais lorsque l'on évoque ses réserves devant un conseiller du Premier ministre, sa voix devient grave. « C'est compliqué », admet-il. « C'est un sujet délicat sur lequel on se sait très attendu ».
Les explications de Benjamin Boucriche. C'est d'un dossier autant politique que social sur lequel les salariés de General Electric vont tenter cet après-midi d'attirer l'attention. Ils manifesteront à Belfort contre la suppression de plus de 750 postes en France, dont une centaine dans la ville au Lyon. Il y a 6 ans, lorsque General Electric avait racheté une branche d'Alstom, le conglomérat américain s'était engagé vis-à-vis du gouvernement à créer 1 millier d'emplois d'ici 2018. General Electric a finalement préféré payer une amende.
C'est un rassemblement à Lyon cet après-midi, place Bellecour. Un rassemblement donc, et non pas une marche. Et ça s'appelle pourtant la marche des fiertés LGBT.
Et oui, crise du Covid oblige. Cette marche a en effet été transformée en mobilisation statique d'un millier de personnes maximum. Qu'importe la forme de la manifestation, l'important ce sont les revendications, même si, Charlie l'assure, tout a été fait pour garantir la sécurité sanitaire des participants. Il est membre du collectif Fierté en lutte.
Ce qui est autorisé aujourd'hui dans l'espace public, c'est les manifestations à caractère politique. C'est comme ça qu'on a obtenu donc l'autorisation de la part de la préfecture de se rassembler. Ce sera donc un rassemblement avec notamment des prises de parole de militants et de militantes. Donc l'ensemble du périmètre sera fermé, barriéré. Il y aura donc une seule entrée qui nous permettra en fait de tenir le compte, qui sera limité à 1000 personnes en même temps. On a renoncé à marcher avant même qu'on nous l'interdise au niveau de la préfecture, de la mairie ou de qui que ce soit. Dans les conditions sanitaires qu'on connaît, on veut avoir cet espace pour pouvoir s'exprimer. On a besoin de cet espace pour pouvoir s'exprimer cette année encore, en raison en fait des difficultés qui ont été rencontrées par les personnes LGBTIAQ+, dans le contexte, c'est des conditions de vie qui ont parfois été compliquées, de devoir se confiner dans des familles pas toujours tolérantes, par exemple, de voir ses accès aux hormones repoussés pour les personnes trans. C'est d'autant plus important de pouvoir se retrouver, mais on veut le faire de manière la plus responsable possible. La revendication, elle n'a pas lieu de s'arrêter, en fait.
Charlie du collectif Fierté LGBT en lutte avec Rémi Brancato. Et justement, la parole du pape sur les couples homosexuels a-t-elle été censurée? Selon le New York Times, c'est le Vatican lui-même qui aurait exigé d'avoir accès à un entretien donné par le Saint-Père à une télévision mexicaine en 2019. Son but, en retirer un passage à l'origine d'une petite révolution. Ce passage, c'est celui révélé dans un documentaire rendu public mercredi. François y déclare sans ambiguïté, les personnes homosexuelles ont le droit d'être en famille. Ce sont des enfants de Dieu. Ce qu'il faut, c'est une loi d'union civile. Elles ont le droit d'être couvertes légalement.
Aux États-Unis, Donald Trump va accomplir son devoir électoral dès aujourd'hui. Ce sera en Floride.
Et il va ainsi rejoindre plus de 52 millions d'Américains qui ont déjà voté. Ils ont choisi de le faire par correspondance ou bien en se rendant dans les bureaux de vote déjà ouverts. Jamais la participation n'avait été aussi forte à quelques jours du 3 novembre. Mais pour l'instant, difficile de déterminer si cette mobilisation profitera au candidat républicain ou à son adversaire démocrate. À Washington, la correspondance de Grégory Phillips.
Elle vient de déposer son enveloppe dans l'une des 50 boîtes blanches et sécurisées qui ont été installées dans les rues de la capitale fédérale. Carrie était résolue à voter tôt. Je trouve ça plus pratique pour les personnes âgées. J'ai 70 ans et des problèmes de santé. Et si je devais aller dans un bureau de vote, je ne sais pas combien de temps je devrais attendre. Donc c'est mieux comme ça. Hier soir, 16 millions d'Américains déjà s'étaient déplacés pour aller voter avec des files d'attente impressionnantes en Géorgie, au Texas et 36 millions d'autres électeurs avaient voté par correspondance. 52 millions de bulletins, c'est déjà presque 40% de la participation totale d'il y a 4 ans. L'Université de Floride note que ce sont surtout les électeurs enregistrés comme démocrates qui utilisent le vote anticipé. Un bulletin sur deux, 30% des votes effectués par des électeurs enregistrés comme républicains et 22% sans affiliation. Les sympathisants républicains ont sans doute en tête les avertissements de Trump concernant le vote par courrier, analyse le chercheur Michael McDonald. Donc oui, les démocrates ont l'avantage maintenant, mais il faudra attendre de voir ce qui se passe le jour de l'élection. Le 3 novembre au soir, les chercheurs de l'Université de Floride s'attendent à un record, peut-être 150 millions de bulletins, ce qui serait la participation la plus forte de l'histoire des États-Unis. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Retour en France avec cette association de la carpe et du lapin, ou plutôt d'un gros chat et d'un capteur de lumière. Et quel capteur? Un travailleur de la matière, un de nos plus grands peintres contemporains, Pierre Soulages. Le musée de Rodez, qui lui est consacré, a eu l'idée de faire venir le créateur du personnage de BD Le Chat, Philippe Gueluc, pour expliquer l'œuvre de Soulages au plus grand nombre. Rencontre avec le dessinateur belge signé Stéphane Iglesis.
Une carte blanche à Gueluc pour présenter notamment les œuvres noires ou outre-noires de Pierre Soulages, c'est déjà assez plaisant. Le chat, dans un dessin, demande à Pierre Soulages comment il aime son café, et le maître répond au lait et non pas noir, devant un chat surpris. Philippe Geluc, l'auteur du chat, est surtout un admirateur de Pierre Soulages depuis longtemps.
On était, ma femme et moi, et sa femme et lui, donc on était à 4, mais on était à 7, et on est allé dans son atelier. Et j'ai vu ce tableau qu'il venait de peindre le jour même où il nous a dit « ne vous approchez pas, il n'est pas encore sec ». Je me suis dit « mais je suis dans l'atelier de Soulages ». On vit un moment de rêve.
Geluc s'est aussi amusé à pasticher dans ses dessins des toiles d'outre-noir de Soulages, ce qu'il résume d'une formule, c'est peut-être un faux Soulages, n'empêche qu'il est accroché dans un vrai Geluc. Benoît Decron, conservateur du musée Soulages.
Le guide conférencier, je considère que dans un musée, le guide, c'est le seul maître à bord après Dieu. C'est comme le chauffeur de bus, vous voyez. Et donc, si les gens arrivent à l'œuvre de Soulages, parce qu'à première vue, c'est un peu autoritaire, c'est un peu monumental, ça peut faire un peu peur. S'ils arrivent grâce au dessin de Geluc, je trouve ça très bien.
Le chat visite le musée Soulages, c'est jusqu'au printemps prochain à Rodez. Rodez, Stéphanie Iglesias, France Inter.